Pronto? Pronto? C'è qualcuno? Ah, eccovi! C'est Cédric Canal qui vous accueille en ce lundi 18 mars. On est de retour, bien sûr, pour parler Serie A, 29e journée du championnat italien. Et avec moi, autour de la table virtuelle de Ponto Calcio, Antoine Aiello. Salut Antoine!
Salut, salut.
Il paraît que tu as passé un bon week-end. De samedi soir jusqu'à maintenant, tu as passé un super week-end. Foot et compagnie, tout s'est bien passé. Non? Sur le terrain, à la télé, tout parfait pour toi.
Et à la maison, tout est un bon week-end. C'est parfait.
Antoine Aiello qui a gagné dimanche lors de son match également. Donc voilà, on félicite aussi son équipe avec une petite blessure pour Antoine, mais ça va mieux ou pas d'ailleurs?
Ouais, ça va. Un petit peu mal, mais c'était un peu compliqué dimanche. Petite reprise et tout, mais d'ailleurs, j'ai fait un match avec mon frère, d'ailleurs. Ça fait longtemps que je n'avais pas joué avec mon frère.
Ah bon, on salue Pierrot, on salue Pierre. Également avec nous, Raphaël Gauthier. Salut Raphaël.
Salut à tous.
Comment vas-tu?
Bon, écoute, très bien, très bien.
Toi, le match du week-end, comment il s'est passé?
Le match lequel? Celui du Milan, le mien?
Non, le tien. Celui
Le
du
mien,
Milan,
il
on
a
y
été
reviendra après.
reporté. Il a été reporté pour cause de temps assez mauvais en Lorraine, même s'il faisait pas si mauvais que ça. Donc ça a été reporté un peu sans raison. Donc repos ce week-end.
Bon, mais voilà, du coup, tu es tout frais ce lundi matin pour ce 71e épisode de Pronto Calcio qui débute juste après le générique. Je vous présente notre invité juste après. Mais donc là, on commence avec Cervo a Primavera de Riccardo Cocciante.
Amico mio, ascolterò le sinfonie delle stagioni con un mio ruolo definito, così felice d'essere nato fra cielo e terra.
Et oui, parce que la primavera, le printemps est là aux portes dans 3-4 jours. On va enfin fêter le retour du printemps. Et aujourd'hui, surtout, on fête, on accueille, et on en est très heureux, Anthony Coppi, journaliste belge et commentateur de la Serie A pour Eleven. Salut Anthony.
Ouais, salut tout le monde. Bah, écoutez, merci pour l'invitation. C'est vrai que ça fait maintenant 7 saisons que je suis commentateur chez Eleven, qui est en train de devenir DAZN d'ailleurs en Belgique au passage, dans l'année de transition, on va dire. Et donc ouais, je ne suis pas spécialiste Serie A et attitré Serie A, mais clairement, c'est le championnat que je suis avec le plus d'intérêt, avec bah, forcément le championnat belge aussi.
Et hier soir, tu as commenté Inter-Napoli. Ça tombe bien, puisque c'est notre premier sujet. On commence tout de suite. Donc, sans échauffement, cet épisode avec donc Inter-Napoli, ça ressemblait un petit peu à une passation de pouvoir en quelque sorte, puisque le Napoli est champion en titre, mais le Napoli, depuis la semaine dernière, ne peut plus officiellement remporter le championnat. Donc, a perdu son scudetto et l'Inter, de son côté, caracole en tête. Et à moins d'un accident industriel, devrait remporter ce championnat. Un but partout au final, l'ouverture du score de Darmian, avec une nouvelle passe décisive de Bastoni, deuxième passe décisive en 2 matchs pour le défenseur de l'Inter, et donc le but de Matteo Darmian. Et puis en fin de match, l'égalisation de Juan Jesus, le défenseur brésilien de la tête. Alors, que penser de ce match? Surtout, c'est un match entre deux équipes éliminées en milieu de semaine en Ligue des Champions. Anthony, qu'est-ce que tu en as pensé déjà de la qualité du match et de ce scénario?
Bon, comme on pouvait s'y attendre, on sentait quand même deux équipes qui avaient encore le match dans les jambes et surtout dans les têtes. C'était peut-être d'autant plus vrai pour l'Inter, je trouve, qui m'a déçu dans le sens où j'ai un peu du mal à comprendre comment ils ont perdu un peu le fil du match, surtout les 20-30 dernières minutes, parce que la première mi-temps, voilà, et même le début de la deuxième, il y avait pas. C'était pas hyper flamboyant, mais tu as quand même Meret qui a été alerté à plusieurs reprises. Tu avais quand même des choses intéressantes. Tu sentais que quand ils accéléraient, ils étaient capables de passer devant, ce qu'ils ont fait, et à juste titre. Donc voilà, après, on ne s'attendait pas à un grand football forcément, parce que c'est une période particulière. Tu as cet échec-là, et puis l'Inter, ben, avec une telle avance, on sait que c'est une période particulière qui commence pour eux, parce que le titre, ils vont l'avoir, on ne sait juste pas quand, évidemment.
Et d'ailleurs, Federico Di Marco, en fin de partie, a signalé le record de points ne les intéresse pas, ce qu'ils veulent, c'est être champion le plus tôt possible. Mais sans aller chercher des records ou n'importe, ce n'est pas forcément l'objectif. Mais du côté de Simone Inzaghi, ce qui a pu surprendre en quelque sorte, et j'ai demandé à Raphaël et Antoine aussi leur avis, c'est que 9 des 11 titulaires de Madrid ont été reconduits. Donc les seuls changements, ça a été Acerbi, On reviendra sur son cas, en particulier aux défenseurs italiens dans quelques minutes, à la place de Vrij, et donc Darmian, le buteur, qui a été préféré à Dumfries pour le reste, Mkhitaryan de nouveau, et donc six joueurs qui avaient joué au moins 5 minutes mercredi, qui étaient encore titulaires. Et on a senti en fin de match, effectivement, à Raphaël, une équipe qui s'est un petit peu éteinte de l'Inter, ce qui est normal. Ils ont joué à très très haute intensité. On en a parlé dans notre podcast sur la Coupe d'Europe qui est sortie vendredi dernier. Voilà, ils ont joué à très haute intensité contre l'Atlético. Entre parenthèses, l'Atlético qui a perdu 3-0 contre le Barça. Donc c'était un petit peu les deux équipes qui ont fait un croisement entre les matchs de Ligue des Champions du milieu de semaine, ce week-end. Plutôt logique, donc finalement, que l'équipe se soit un petit peu éteinte et concédé ce nul.
Totalement, c'est un match qui a pris énormément d'énergie dans les joueurs, dans les jambes, dans la tête surtout. On peut voir ça de deux sens, je pense, sur la composition. Soit Inzaghi a voulu vraiment mettre la meilleure équipe possible parce que Naples, il considère que c'est un adversaire important, ou alors, et peut-être que c'est également le cas, il a voulu ne pas trop comment dire mettre un coup de massue sur la tête des joueurs qui ont perdu mercredi en leur donnant tout de suite une nouvelle fois la confiance que le coach a. Donc on peut voir ça de deux sens. En revanche, ça, tu as totalement raison, c'est les dernières minutes, les 15-20 dernières minutes, elles étaient très poussives de l'Inter, alors que je pense que 90% des matchs qu'ils ont joués, ils auraient assommé l'adversaire avec un 1-0 puis un 2-0 voire un 3-0. Et dimanche soir, on a vu une équipe qui n'a pas enfoncé le clou, qui n'a pas tué l'adversaire quand il pouvait, et du coup qui était à l'abri d'une égalisation un peu hasardeuse sur coup de pied arrêté, ce qui s'est exactement passé. Et encore une fois, c'est pas un hasard si la première fois qu'ils encaissent un but dans les 10 dernières minutes de cette saison, c'est le match qui suit 120 minutes en Coupe d'Europe. Donc effectivement, ils étaient très empruntés physiquement.
Tu as raison de préciser cette statistique. Un premier but dans le dernier quart d'heure encaissé par l'Inter ce dimanche contre le Napoli. Ça fait partie des stats un petit peu ahurissantes de la saison de l'Inter, comme les 38 minutes menées en Serie A jusqu'ici cette saison. Antoine, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match de l'Inter? Et j'ai même prolongé un petit peu sur le Napoli qui, encore une fois, essaye de jouer comme l'an dernier, mais on le voit que sans Kim, avec un Zielinski sur le banc, avec un Kvara qui alterne le bien et le moins bien. Il y avait aussi Osimhen qui était un peu blessé, qui donc était sur le banc. On voit que cette équipe, quand même, a du mal.
C'est un peu, je pense que hier, l'Inter, ils étaient assez prenables pour une fois, justement, on vient de le dire, par rapport au match qu'ils ont joué mercredi et à la fatigue, et je pense aussi à l'état mental. On sentait quand même qu'il y avait des joueurs, notamment Lautaro, qui était encore, on voyait qu'ils étaient perturbés, même dans les échauffements, on voyait qu'ils étaient un peu renfermés. Donc, comme le Napoli, comme cette saison, un peu souvent l'habitude, ils ont rien montré. Du match, enfin, pas montré grand-chose à part un peu sur la fin où ils ont montré un plus de caractère. Faut voir quand même que le premier tir cadré, il arrive à la 60e, je crois. Donc c'est dommage parce que Napoli, c'est quand même d'aller chercher une place dans l'Europe qui compte, on va le dire. Ils sont pas si loin que ça au niveau comptable, mais là pour le coup, ils ont raté un peu l'occasion. Autant je trouve que l'Inter, ils ont une forme de maîtrise et, malgré beaucoup de déchets techniques à certains moments. Le Napoli, ils ont vraiment pas du tout été dangereux sur le front de l'attaque et. Même si là, on a vu quand même un peu plus de connexion entre Anguissa et Lopotka, qu'on a vu dernièrement, ça marche un peu mieux. Ils n'ont pas non plus été vraiment mis trop en danger par l'Inter, même si Meret a fait quand même 3-4 beaux arrêts, mais ils auraient largement pu gagner s'ils avaient donné un peu plus d'âme à leur jeu, un plus de conviction. Et après, bon, le but arrive sur coup de pied arrêté, comme disait Raphaël, on s'y attendait un petit peu. Bon, après, on a un peu contesté le corner parce que la balle ne sort pas apparemment. Mais bon, je pense que le Naples aurait pu faire plus et profiter justement de l'état de l'Inter un peu convalescent à la suite de son élimination, qui, je pense, leur a fait beaucoup, beaucoup plus de mal. Là où Naples, même si on joue aussi 30 minutes de moins, Naples, je pense qu'ils s'y attendaient beaucoup plus. C'est plus logique que Naples soit sorti, donc ils étaient peut-être un peu moins dans le saut.
Ils ont eu un jour de plus de récupération, ce qui peut aussi bien sûr compter, notamment pour la dernière minute. Anthony, sur le Napoli, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette équipe? Est-ce que tu penses qu'ils vont finir dans l'Europe qui compte, c'est-à-dire, on va inclure la cinquième place, hein, parce que c'est à 95% fait pour l'Italie d'avoir le poste en plus en Ligue des Champions. Mais voilà, le Napoli qui ce matin donc à 45 points et qui a 2 longueurs de l'Atalanta. Mais l'Atalanta, on y reviendra tout à l'heure, un match en retard, puisque le match contre la Fiorentina ne s'est pas joué. Une équipe du Napoli qui est invaincue malgré tout en championnat depuis l'arrivée de Calzona avec 8 points en 4 matchs. Donc on sent malgré tout un petit réveil depuis l'arrivée de l'ex-adjoint de Sarri et actuel sélectionneur de la Slovaquie sur le banc des Azzurri.
Ouais, je pense que ça va être juste hein, pour la Ligue des Champions, quand tu vois la dynamique quand même de Bologne aussi, de Rome, qui même en étant un petit peu plus dans le dur, parvient quand même encore à s'imposer depuis un ou deux matchs, malgré tout, avec aller chercher des points quand il le faut, un peu miraculeusement, comme ils l'ont fait contre la Fiorentina. Donc, je crois pas qu'ils pourront aller chercher le top 5. On l'a vu encore hier. OK, il y a des bribes de jeu qu'on pouvait retrouver dans ce qui se faisait les deux dernières saisons sous Spalletti. Mais on sent que c'est sur un fil, que c'est quand même très variable. C'est très dépendant de l'état de forme de Kvaratskhelia et d'Osimhen, s'il est là ou pas. Donc, je pense que dans tout cet ensemble-là, sachant qu'en plus, ben, ils prennent un point au Meazza, c'est une bonne chose, sauf que c'est au moment où la Lazio s'est imposée, où Bologne s'est imposée, où la Rome s'est imposée. Donc, ils font quand même la moins bonne opération du week-end dans cette course à l'Europe-là, en ne prenant qu'un point à San Siro, alors que très peu de gens l'ont fait en se déplaçant en Inter. Donc, c'est un peu paradoxal, mais ce sont des détails qui comptent. Et je pense qu'ils ont encore un gros calendrier, mine de rien, avec pas mal de confrontations directes. C'est là que ça va se jouer, mais je ne les vois pas vraiment gagner toutes ces confrontations directes-là. Il faudra quand même montrer beaucoup plus et avoir maintenant l'embellie Calzona, parce qu'ils vont devoir gérer la trêve sans Calzona aussi. Ça va être assez particulier. Encore une fois, donc je pense que maximum Europa League, et j'ai même tendance à penser que ce sera plutôt la Conference League au mieux l'année prochaine pour Naples.
Occhio al calcio d'angolo, la battuta dentro a cercare una deviazione, eccolo! Il colpo di testa vincente ha colpito Juan Jesus, il gol dell'ex, il pareggio del Napoli, si è trovato il pallone facile, facile da spingere di testa.
Et le Napoli, effectivement, qui reprendra direct le 30 mars contre l'Atalanta. J'ai raison de préciser la Roma, j'ai complètement oublié la Roma. Regardez le classement, ils sont cinquième, la Roma. Donc le Napoli a 6 points de retard pour le moment sur la zone virtuelle Ligue des Champions. Et si jamais il n'y avait que 4 places pour l'Italie, ce serait quasiment mort s'ils ont déjà 9 points de retard sur Bologne. Alors, il y a eu un petit incident dans ce match. Souvent, on ne parle pas trop des polémiques, mais je voulais quand même avoir votre avis. C'est Francesco Acerbi qui aurait, on va parler de conditionnel, parce que bon, pour le moment, voilà, il y aura sûrement une enquête qui va être effectuée, qui aurait donc insulté des insultes racistes, une phrase raciste envers Juan Jesus. Alors, Juan Jesus s'est logiquement agacé pendant le match, il en a parlé à l'arbitre. À la fin du match, devant les caméras, il a plutôt minimisé, on va dire, en disant à Cervi, s'est excusé, c'est un bon garçon, voilà, l'incident est clos. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, pour vous, c'est une question qui peut aller un petit peu au-delà de Francesco Acerbi? Est-ce qu'on peut tout dire, on peut tout faire sur un terrain ou pas? C'est un petit peu ça aussi, l'angle, même Juan Jesus, à la fin du match, a dit, voilà, il se passe tout sur un terrain. Donc, est-ce que pour vous, il y a des limites ou pas, Raphaël?
En fait, je pense que Juan Jesus aurait jamais dû parler de ça s'il voulait pas qu'on en parle en fin de match. Soit il en parle dès le début et ensuite, bah, ça fait une affaire. Aujourd'hui, on sait que tu peux quasi ne rien dire sur un terrain sans que ça se sache dans les médias ou dans les réseaux sociaux. Donc, si tu ne veux pas que ça fasse une affaire d'État, tu ne vas pas en parler à l'arbitre quand le score ne t'arrange pas. Et après, comme tu es égalisé un partout et que du coup, tu veux minimiser cette affaire, tu dégoupilles en. Bah, tu mets un peu tu mets un peu de l'eau sur l'affaire quand t'as plus envie qu'on en parle. Moi, je pense que si tu voulais vraiment pas en faire une affaire d'État, fallait pas en parler dès le début, mais à partir du moment où il en a parlé à l'arbitre, bah, c'est normal que nous, suiveurs ou que les médias reprennent l'info.
Antoine, toi qui as le cœur pour la Squadra Azzurra, Francesco Acerbi est international. Je lisais pas mal de choses entre hier soir et ce matin, même des personnes qui disaient il doit s'expliquer et si c'est vrai, il doit être exclu de la sélection, par exemple, là, pour les deux prochains matchs, sachant que dans le règlement, il peut prendre 10 matchs de suspension hein, si jamais c'est avéré. Voilà, le règlement prévoit cela. Donc, qu'est-ce que tu en penses, Acerbi, Antoine, et aussi dans l'optique nationale?
Déjà, il faudra voir si on parle de manière un peu plus légale. Il faudra déjà voir si, comment dire en français, le giudice di gara, le juge de match, on
Oui,
dirait en
il fera
Italie.
un rapport, oui.
Voilà, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de rapport, on peut en discuter, nous, entre nous, de manière, voilà, comme ça. Mais si on parle de manière légale, footballistique et de la sanction, il faut déjà voir. Pour l'instant, il n'y a rien. Et aujourd'hui, il part aux États-Unis avec la sélection. Pour faire la tournée aux États-Unis, vu qu'apparemment, l'Italie aussi fait les rêves de l'autre auteur maintenant. On va dire que dans l'immédiat, ça ne va pas avoir de grandes conséquences à voir, mais. C'est quand même grave, en plus ça me surprend un peu de sa part parce que c'est quand même un des plus expérimentés, un des tauliers. Donc, et c'est pas un garçon qui est trop connu pour son vice dans le jeu, etc. Mais c'est pas une mauvaise personne, c'est pas une personne qui est dans les coups comme ça. Donc, j'attends de voir évidemment si c'est acté qu'il a vraiment dit ce mot-là parce que Jésus, évidemment, il dit ça à l'arbitre et en fait on lit sur ses lèvres pendant le match qu'il dit qu'il a traité de négro, c'est le terme qui était employé. Mais quand il s'excuse devant DAZN ou Sky, je sais plus, il donne pas l'insulte, il dit juste non, c'est un truc du terrain. À voir s'il a vraiment dit ça, à voir qu'est-ce qui a vraiment été dit. Acharabi c'est pas n'a pas communiqué là-dessus. Enfin, c'est un peu, pour l'instant, je trouve qu'on n'a pas encore assez d'éléments. Évidemment, si c'est reconnu, enfin si c'est si l'enquête aboutit sur ce genre de fait. En plus, je rappelle que toutes les semaines, la Serie A met en avant une association. Hier, c'était sur le racisme. Donc, en plus, Acharabi il a bien choisi son jour, si c'est le cas. On parle au conditionnel. Mais si c'est le cas et que réellement je pense qu'il sera saison terminée pour lui. Et connaissant Spalletti, qui est quand même une personne, je trouve, qui, même s'il peut être un peu clivant, c'est un sujet, Spalletti, qui a quand même qui est
Une
connu pour
morale.
ses humaines, il va le sortir de la liste de l'Euro. Il faut s'y attendre. S'il est reconnu coupable, même s'il s'excuse machin, je pense qu'à 80%, il n'ira pas à l'Euro. C'est dommage.
Anthony, qu'est-ce que tu en penses? Et toi qui commentais le match, est-ce que tu l'as compris tout de suite? Parce que moi qui étais à San Siro hier soir, j'avouais qu'au début, lorsque Juan Jesus va voir l'arbitre et que ça dure pas mal de temps, je dois avouer que j'ai pas compris, qu'on était pas mal à pas comprendre ce qui s'était passé jusqu'à ce qu'on voit enfin les images. Et voilà. Mais toi, au début, est-ce que tu as compris ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu en penses?
Non, j'étais avec un consultant Olivier Dol hier, on n'a pas compris ça, on n'a pas pensé à ça, on se demandait un petit peu ce qui se passait. C'est après le match en fait que j'ai vu finalement ce qui s'était déroulé. Je vous avoue que quand allez, le premier réflexe qu'on a dans ces cas-là, quand il y a discussion, quoi que ce soit, et qu'il y a les ralentis qui arrivent, c'est de regarder s'il y a une faute quelque part, quand est-ce qu'il le touche, est-ce qu'il y a un sale geste qui s'est perdu ou quoi, et pas forcément ce qui a pu se dire. Donc on a un peu raté ça. Bah, voilà, c'est très particulier hein, parce que d'un autre côté, on voit que Juan Jesus met le sujet sur la table. Et je veux dire, si c'est avéré, il a tout à fait raison de le faire, mais qu'il veut en même temps voilà, le mettre sur le sujet sans que ça prenne trop d'ampleur. Toujours particulier, surtout sur un sujet pareil. On sait que l'ampleur, si c'est avéré, elle va être énorme. Mais si c'est avéré, bah, la sanction sera, je pense, lourde pour Acerbi parce que. La Serie A devra sanctionner fort. Et là, c'est un cas, entre guillemets, qui serait facile à juger si les faits sont avérés, dans le sens où, bah, quand c'est des supporters, on ne sait jamais trop qui a parlé, qui a fait les cringes ou quoi que ce soit. C'est toujours difficile de savoir le dire. Là, ce ne sera pas compliqué de savoir si Acerbi l'a réellement fait ou pas, et donc de prendre les sanctions, les mesures derrière. Donc, c'est très bizarre. On se doit quand même d'être prudent par rapport à ça. Juste par rapport au fait qu'on n'a pas tous les éléments et de laisser bah, les personnes compétentes faire leur travail et ensuite de là prendre, je l'espère, la bonne décision. Mais ouais, c'est assez étonnant venant d'un mec comme Acerbi. Je partage totalement ce que dit Antoine. C'est quelqu'un qui dégage quelque chose quand même normalement d'assez positif, notamment par son histoire et de sa trajectoire très particulière dans sa carrière avec ce qui lui est arrivé évidemment il y a plusieurs années. Donc voilà. Ouais, après, j'ai pas non plus envie déjà de me projeter sur les possibles conséquences pour la nationale et parce qu'au final pour l'instant c'est pas le plus important l'important c'est de pouvoir assumer et là par contre on sait qu'ils se disent des choses sur le terrain je voudrais terminer là-dessus il y a quand même des lignes rouges à pas franchir le racisme en est une mettre une patate littéralement à son adversaire commencer une bagarre ou quoi que ce soit ça fait aussi partie de ces lignes rouges à ne pas franchir donc voilà, les insultes, elles seront toujours là, mais il faut savoir aussi se maîtriser.
Je vous rejoins complètement là-dessus. Donc, on va voir ce qu'il va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines sur le cas et si on reverra Acerbi ou pas. Après la trêve, il y aura un Inter Empoli lors de Pascuetta, le lundi 1er avril, le lundi de Pâques. Alors, on va continuer. Je vais vous proposer un petit débat avant de revenir sur l'eau du classement. On va parler de Milan, de la Juve, de la Roma dans un instant. Mais avant, je voulais qu'on s'intéresse un petit peu au milieu de tableau, puisque ça me dit un petit peu dans l'indifférence générale de la Serie A. Vous savez, ces matchs comme ça de 15 heures qui n'intéressent pas forcément grand monde. Eh bien, le Torino a battu l'Udinese 2-0 avec des buts de Zapata et de Vlasic. Et Monza a battu Cagliari 1-0 avec un but de Daniele Maldini. On l'écoute.
Parte Maldini! Col pallone che si insacca alle spalle di Scuffet dopo aver rimbalzato sulla traversa. Gol del vantaggio per il Monza con una magia, una meraviglia, un gioiello di Daniel Maldini.
Un très très beau but, un très très beau coup franc du fils. Maldini, le troisième de la génération, donc a joué En Serie A, Daniele Maldini, c'est donc 3 buts et une passe décisive cette saison depuis son arrivée à Monza. C'était sa première titularisation. Et du coup, eh bien, Monza a 42 points, le Torino 41. Et les deux équipes, 9e et 10e, eh bien, ne sont qu'à 3 et 4 points de la Conference League, et peut-être même moins, parce que si l'Italie a 8 places en Coupe d'Europe, il serait même actuellement, hein, respectivement, 1 point pour Monza et 2 points pour le Torino de la zone Europe. Alors, je vous pose la question, est-ce que selon vous, l'une de ces deux équipes va finir dans le top 8 et donc potentiellement européenne? Je commence avec toi, Raphaël.
Moi, je pense pas, non. Je pense pas. Déjà, en regardant très rapidement leur calendrier, ils ont tous les deux des gros, gros matchs à jouer. Pour le Toro, il y a la Juve, l'Inter, l'Atalanta, Bologne. Donc, au moins 4 matchs sur 8 avec des équipes supérieures. Monza, c'est pareil, ils ont des gros matchs à jouer. Puis Daniel Maldini, c'est bien, mais quand il va affronter une équipe comme l'Inter, il va se faire bouffer par son latéral ou par la défense centrale. Le Toro, c'est pareil, le Toro, c'est trop irrégulier. On en a déjà parlé plein de fois dans le podcast cette saison. C'est dur de les pronostiquer, c'est dur d'imaginer ce qu'ils peuvent faire. Juric, c'est un bon coach, mais je pense que c'est un plafond, 10e ou 9e, ils pourront pas aller beaucoup au-dessus. Et surtout avec des équipes comme la Lazio, Napoli, qui sont à la 8, 9, 10e place, je pense qu'eux, ils ne laisseront pas passer des équipes comme Monza devant.
Antoine, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je rejoins assez Raphaël, notamment sur le plafond de verre du Torino de Juric? On a un petit peu l'habitude. Avant Juric, déjà, c'était le cas. Puis avec lui, c'est un petit peu la même chose. Et puis Monza, c'est une équipe, parfois, on a l'impression que c'est un petit peu un miracle de l'avoir aussi haut, puisque mine de rien, il y a quand même beaucoup de retouches. Monza, d'ailleurs, qui est en train d'être vendu, puisque le groupe de la famille Berlusconi est en train de vendre à un fonds italien la majorité des parts. Mais bon, on aura l'occasion d'y revenir. Mais voilà, est-ce que pour toi, l'une des deux peut faire une petite surprise et aller se mêler à la lutte?
Non, je pense pas, parce qu'en plus, comme disait Raphaël, Monza, ils ont encore été compliqués. Ils doivent encore affronter Naples, Bologne, la Lazio, l'Atalanta, la Fiorentina. En gros, ils vont prendre tous ceux qui sont au-dessus d'eux. Je ne les vois pas prendre assez de points déjà pour combler le retard qu'ils ont déjà sur eux et prendre leur place. Le Torino, je pense que c'est trop compliqué dans le jeu pour prétendre à plus. Ça se joue souvent sur des individualités plus que sur du jeu, quoi. Juric, bon, c'est un bon coach quand même parce qu'il fait quand même des bonnes choses, mais je les vois quand même trop en arrière. Ils ne proposent pas assez. Et en ce moment, ils ont surtout de la chance d'avoir deux joueurs qui sont en hyper forme. On fera après la transition sur Bellanova et sur les quelques profils du Torino qui en ce moment sont très bons, comme aussi sur Douvan, sur Zapata qui est en feu et qui a encore mis une super tête. Mais je trouve que c'est un peu trop pauvre dans le jeu pour prétendre à plus. Et c'est pareil, ils n'ont pas forcément un calendrier si facile que ça entre ceux qui sont devant eux et ceux qui jouent la relégation, vu qu'il y a vraiment un bloc de 5 derrière qui pousse aussi. Ça va être trop compliqué pour eux, je pense.
Anthony, qu'est-ce que tu en penses Même s'ils ne vont pas en Europe, ce qui est assez probable malgré tout, est-ce qu'il y a une de ces équipes, toi, qui te plaît particulièrement? Parce qu'on a quand même deux techniciens, alors deux générations un petit peu différentes, qui ont quelques années d'écart. Malgré tout, Juric a fait quelques années qu'on le connaît, mais deux techniciens, en tout cas, qui proposent un football assez intéressant dans cette série.
Ouais, concernant les ambitions européennes, je suis tout à fait d'accord avec ce que disent Raphaël et Antoine. Il y a le calendrier, il y a aussi les équipes qui doivent affronter pour espérer aller gratter une place européenne. Et ce serait la 7e. Je ne les vois vraiment pas, même en termes d'expérience, réussir à passer devant Naples, la Lazio, voire la Fiorentina, qui sont habitués à ces gestions-là. Concernant le style, je préfère clairement le style Monza. Je ne suis pas très fan du Torino Juric, en tout cas pas cette année. J'ai l'impression que c'est du physique et pas grand-chose d'autre, alors qu'avant, on pouvait voir des choses plus intéressantes, notamment sa fin de campagne du côté du Hellas Vérone. Allez, une période qui était sympa. La transition avec Tudor, d'ailleurs, avait été assez naturelle pour le Hellas. Donc, je suis plutôt Team Monza ici en termes de jeu, même si je ne sais pas si ce sera suffisant pour un Paladino pour espérer vraiment viser plus haut dans un plus grand club et avoir les mêmes résultats. C'est toujours évidemment la même question. Mais voilà, il y a plus de joueurs intéressants, même si deux ou trois fois où je les ai commentés cette saison, c'était parmi leurs pires matchs. Donc, je n'ai pas non plus vu toutes les autres rencontres de Monza, mais du peu que j'en ai vu, plus apprécié que le Torino. Je les ai encore fait la semaine dernière contre Naples, justement. Bon, ce n'était pas non plus, c'était pas non plus très, très sexy. C'est le physique à l'extrême, un peu trop.
La physique et la vitesse des pistons, notamment celle de Bellanova. Antoine a raison de le signaler, il a été sélectionné, en tout cas appelé pour la première fois nationale. On fera un mini débat en fin d'épisode sur le groupe de Spalletti. Tu as dit son nom, Anthony, la transition est trouvée. Tudor, qui avait succédé à Juric à l'AS Vérone, et ensuite il a été à Marseille, là il est sans club, et donc eh bien, il rebondit à la Lazio, contrat jusqu'en juin 2025, c'est ce qu'il voulait au Napoli, mais il ne l'a pas obtenu. Eh bien, il a attendu un petit peu, il a donc obtenu cela à la Lazio, puisque Sarri donc a claqué la porte quelques minutes après l'enregistrement de notre épisode mardi dernier, Raphaël. Voilà, il t'a écouté depuis le temps que tu disais qu'il ne finirait pas la saison. Eh bien voilà, de lui-même, il a décidé de partir. Donc tu vois un petit peu ton influence, Raphaël. C'est son adjoint, Maltuchello, qui a assuré un mini-intérim donc, pour le match contre Frosinone. Succès 3-2 avec un but de Zaccagni, ça faisait un moment qu'il n'a pas marqué. Et puis Castellanos, donc doublé. Il avait déjà marqué à l'aller, Castellanos, ce qui veut dire qu'il a mis 3 de ses 4 buts contre Frosinone en Serie A cette saison. D'ailleurs, on écoute le deuxième but de Castellanos, qui n'était pas le plus dur, puisqu'il a juste à pousser le ballon au fond des filets.
Tira vuoto, la palla resta lì, Romagnoli prova a concludere, poi gira Casale, deviazione, palo e poi Castellanos. Facile, facile per il 3-1 della Lazio.
Donc voilà, la Lazio donc éliminée il y a 10 jours en Ligue des Champions, qui a encore la Coupe d'Italie à jouer, qui va jouer 3 fois la Juve en avril, 2 fois en Coupe d'Italie et puis dès la reprise donc en championnat. La Lazio donc qui sera d'Igor Tudor. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre selon vous de cette Lazio donc avec Tudor, sachant que on pense à Guendouzi par exemple, parce que ça ne s'était pas très bien passé à Marseille. On peut penser à Immobile, qui n'a pas forcément un style de jeu qui peut convenir à Tudor. L'attaquant qui presse un petit peu tout terrain, ce n'est pas forcément Immobile, c'est plus Castellanos. Donc, quid un petit peu du capitaine aussi. Voilà, il y a pas mal de questions qui s'ouvrent pour ce changement à la Lazio, sachant qu'il reste 11 à 12 matchs à jouer cette saison pour eux, avec des objectifs importants, une Coupe d'Italie à aller chercher. Et une place européenne, que ce soit par la Coupe ou par le championnat aussi, à prendre. Antoine ?
C'est un peu, je ne sais pas trop quoi m'attendre, parce que si on me remet un peu dans le contexte, encore une fois, parce que on parle du départ de Sarri, mais je pense qu'on peut faire des liaisons entre De Laurentiis et Lotito. Encore là, on a encore un président qui est omniprésent et qui est polémique. Il y a Immobile qui a été agressé cette semaine par des supporters, si on ne peut pas plus à des supporters. Lotito est interrogé dessus et il dit... En gros, il dit que lui, ça fait 20 ans qu'il est menacé et qu'il n'en fait pas tout un foin. Donc, en gros, que son attaquant peut la fermer. Enfin, on est dans un contexte à la Lazio qui est tellement compliqué que, en fait, tu sais jamais à quoi t'attendre. Tu sais pas si ça peut accoucher d'une souris comme cette saison ou sinon faire une saison exceptionnelle comme l'an dernier. Parce que faut quand même pas oublier qu'on parle de la Lazio, mais l'an dernier, il termine deuxième derrière le Napoli. Et en fait, tu te rends compte que ces deux clubs du Sud, même si toi, c'est vrai que t'es milanais, pour toi, Rome, c'est plus le Sud. Pour toi, c'est l'Afrique, je le sais. Mais. On ne sait jamais à quoi s'attendre en fait. Tudor, ça reste un bon coach qui a été très cherché et recherché. Mais je ne sais pas trop comment attendre. Je trouve que c'est un peu court pour Tudor de. À mon avis, ils vont essayer de faire une Conference League ou peut-être maximum une Europa League, mais ça va être compliqué pour moi, pour lui, de tirer quelque chose sur 9 matchs. C'est un peu trop. Pour moi, c'est
peut-être
un
plus
peu
la
trop.
Coupe, non? Peut-être plus sur la Coupe où il pourra peut-être. Voilà, c'est des demi-finales aller-retour et peut-être plus un coup à jouer contre la Juve là-dessus, non?
C'est contre la Juve.
Oui, c'est dur. C'est dur, mais vu que la Juve est en crise, on va peut-être se réveiller un jour. On va y revenir dans quelques instants.
La Coupe, clairement, parce que, et j'ai envie de te dire presque que s'il remporte la Coupe, ce serait une saison quasiment réussie, parce que je pense, parce que déjà, c'est une qualification en Ligue Europa.
C'est ça.
En Super Coupe d'Italie, en plus. Et surtout, je pense que l'effectif de la Lazio, cette équipe, de toute manière, elle est beaucoup plus façonnée à la Ligue Europa. Donc, et d'ailleurs, c'est ce que le président. Donc, finalement, j'ai envie de te dire que tout rentre un peu dans l'ordre. Parce qu'au-delà de l'argent qu'ils vont prendre en Ligue des Champions, quand tu as un président, même comme ça, qui a du mal à sortir un peu la caillasse, je pense que leur place est plus en Ligue Europa et je pense que ça pourrait leur permettre de finalement de pas trop mal finir la saison après des 6 derniers mois de Sarri qui ont été cataclysmiques.
Anthony, sur cette fin de Sarri, justement, c'est vrai qu'il est assez compliqué. Lui, donc, a décidé de démissionner. Lotito aurait essayé malgré tout de le retenir, s'il n'avait pas forcément envie de changer d'entraîneur maintenant, il espérait plus attendre la fin de saison. Et puis ce choix de Tudor, toi, est-ce que tu penses que c'est le bon choix voilà, en Italie, on dit trascinatore, la personne qui porte plus par l'envie, on va dire, dans un premier temps, pour avoir un déclic psychologique, mais voilà, ça peut être un bon choix aussi là-dessus.
Oui, je pense que dans ce registre-là, purement en termes de ce qu'il va apporter en termes de mentalité, ça devrait être un apport par rapport à Maurizio Sarri qui donnait l'impression de ne plus vouloir être là depuis longtemps. Et même la saison dernière était bizarre pour Sarri, je trouve, malgré l'excellent résultat. On n'avait pas du tout retrouvé le jeu habituel de Maurizio Sarri auquel on s'attendait. Donc, c'est un bilan qui est mitigé le concernant. Donc, à voir pour Tudor. Maintenant, c'est aussi un registre tout à fait différent en termes de. en termes de jeu? Est-ce qu'il a des profils, tu vas en parler tout à l'heure, notamment avec Immobilier, les problèmes avec Guendouzi, des joueurs dont il ne pourra pas se passer d'ici la fin de saison? Alors certes, Castellanos vient de faire un doublé ici ce week-end, mais tu disais très bien, 3 de ses 4 buts ont été marqués contre Frosinone. Je pense que c'est plus un sursaut qu'un réel... que le début véritablement de l'histoire de Castellanos du côté de la Lazio. Je pense que ça va aussi prolonger le départ, en tout cas accentuer une chose, c'est le départ d'Immobilier à la fin de la saison. On a l'impression qu'il traîne son spleen entre un entraîneur auquel il pourrait ne pas correspondre. Ce qu'a dit Lotito, ses déclarations qui n'avaient pas été appréciées en disant qu'il aurait pu partir en Arabie Saoudite en début de saison. On est au point à se demander, il aurait peut-être mieux fait d'ailleurs de partir en Arabie Saoudite, ce qui est triste, mais d'un autre côté, quand tu vois comment cette saison se termine, c'est dommage pour lui. Je pense que c'est un déclic qui sera peut-être important pour la Lazio. Je pense que ça n'aurait pas été une bonne chose de terminer la saison avec Maurizio Sarri, parce que je pense qu'il n'aurait pas réussi à accrocher l'Europe vu la dynamique très particulière dans laquelle cette équipe se trouve. Maintenant, à voir aussi les tâches qu'il va demander, à voir comment ça va se passer avec un Luis Alberto. Ça fait longtemps aussi qu'il est là, qui vraiment pour mettre un gros impact physique dans ce milieu de terrain. Je ne pense pas que ce sera Vecino qui fera ça non plus. Donc, à voir aussi, ce sera intéressant de voir comment Tudor va s'adapter, parce qu'il va aussi devoir s'adapter avant d'imposer son jeu pour l'année prochaine. Et tu disais, c'est 2025,
C'est
hein,
ça,
pour
oui,
ouais.
il a 1 an et demi de contrat, 1 an et demi, 2 mois de contrat.
C'est particulier hein, pour un entraîneur, je trouve. Il accumule quand même les contrats courts à gauche et à droite. Bon, après, d'un autre côté, il vaut peut-être mieux ça quand on a Lotito comme patron. On sait que d'une année sur l'autre, ça peut très, très vite changer. Donc, voilà, par rapport aux entraîneurs qui étaient libres sur le marché, je pense que c'est une bonne opportunité pour la Lazio.
Raphaël, je t'ai gardé en dernier sur le sujet Lazio, comme je disais au début de cette chronique qui te tient à cœur. Toi, le départ de Sarri, qui donc était un petit peu inéluctable, on le pensait peut-être plus en fin de saison, mais voilà, sur ce départ-là. Et sur le choix de Tudor, qu'on connaît bien aussi bien en Serie A qu'en France, puisqu'on l'a vu aussi à Marseille, et toi qui suis les deux championnats.
Oui, bah effectivement, on en a parlé plusieurs fois dans le podcast et j'ai dit ça déjà, je crois, c'était au mois de décembre ou janvier où je le voyais pas vraiment passer l'hiver. Au final, il est resté et dernièrement, je disais que je pense qu'il fallait en finir avec lui, mais en même temps, il reste que 8 matchs, donc enfin quelques-uns. Donc, c'était pas évident de le virer maintenant, c'est ce qui a été fait. Je pense que c'est pas plus mal pour préparer la saison à venir déjà. Pour donner peut-être un petit coup de boost aux joueurs qui ont, comme on l'a dit dans le précédent podcast, un énorme mois d'avril avec la double confrontation contre la Juve en coupe, avec le derby contre la Roma. Et bien sûr, il y aura une fin de saison à aller chercher avec un match contre l'Inter en 37e journée, une Inter qui aura plus rien à jouer et si on se souvient de l'histoire de la Serie A, peut-être qu'il se passerait quelque chose d'intéressant pour eux. Donc, je pense que voilà, c'était le bon moment. Tudor, c'est un entraîneur qu'on a vu en Ligue 1 et un championnat que je suis qui a une vraie mentalité, qui a une poigne et qui, je pense, va pas laisser des joueurs dans un confort comme on les a connus cette saison. Donc, je pense que ça va un petit peu foutre le bordel dans cette équipe et j'espère que, enfin, j'espère non, parce que je suis pas vraiment supporter de la Lazio, mais je pense que ça peut donner un petit coup de fouet à cette équipe.
On verra déjà si tactiquement ça passera à 3 derrière, parce qu'on sait qu'Igor Tudor est un adepte de la défense à 3. Pas forcément l'effectif, mais bon, on verra. En tout cas, Inzaghi l'a joué comme cela là-dessus avant Sarri, donc il y a peut-être quelques bases à retrouver. Avant de faire un tour rapide sur Juve, Milan, Rome, je donnerai chacun un petit club à débriefer. Anthony, on voulait s'intéresser aussi eh bien, à comment est vécu et comment est vue la Serie A en Belgique. Toi qui commentes ce championnat-là. Alors on sait que la Belgique est une terre où il y a beaucoup d'Italiens qui ont immigré dans l'histoire. Ton nom, on ne va pas faire ton histoire familiale, mais copie. Ça
Oui,
sent.
j'en fais partie, j'en fais partie.
Donc, voilà comment est vécu la Serie A. Est-ce que c'est derrière le championnat belge et j'imagine peut-être la Première Ligue, le championnat qui est le plus suivi. Enfin, raconte-nous un petit peu tout ça.
Sur la manière, bah, tout ça a toujours été diffusé. Par exemple, nous ici sur Eleven, c'est toujours 4 ou 5 matchs de Serie A qui sont diffusés le week-end. Ça a pris une certaine importance particulière dans les relais médiatique plus que dans la diffusion en elle-même des matchs évidemment ces dernières années hein, je dis l'année dernière mais ces dernières années avec l'arrivée de Lukaku à l'Inter l'intrigue j'ai envie de dire c'est le Salemakers Saint-Milan qui avait surpris pas mal de monde parce qu'à cette époque-là il n'était pas sur une période particulièrement glorieuse à Anderlecht évidemment de Ketelaar l'an passé ici récemment encore ben, la Serie A qui est mise en évidence avec la première sélection de Conny De Winter avec les Diables Rouges en mars, dans une défense où on se pose beaucoup, beaucoup de questions ici en Belgique, et donc il a un véritable coup à jouer. Donc voilà, c'est sûr que c'est particulièrement suivi. Il y a pas mal de régions où il y a une très forte communauté italienne, avec évidemment la Juve qui reste le club phare, et puis arrive l'AC Milan et l'Inter. C'est même plutôt dans l'ordre inverse. Je pense que l'Inter a aussi plus de supporters de l'AC Milan. Moi, je me suis souvent senti seul, en tout cas quand j'étais en classe, quand il s'agissait de parler de foot italien, parce que c'est plutôt pour l'AC. Donc voilà, suivi, c'est très suivi. Il y a cet aspect belge en plus qui fait que les relais médiatiques sont un peu plus nombreux donc ces dernières années. Maintenant, on n'a pas dans la presse un expert foot italien réellement attitré. Je veux dire, c'est vrai que ben voilà, quand tu regardes les consultants, quand tu regardes les journalistes, c'est pas comme dans le paysage français où tu as souvent les mêmes journalistes, les mêmes consultants sur certains championnats, notamment chez Bein Sport. Nous, on n'a pas vraiment cette logique-là, puisque ben, on bosse aussi beaucoup, le marché étant beaucoup plus petit, ben, on bosse beaucoup dans plusieurs chaînes différentes. Donc c'est toujours un petit peu le même son de cloche d'une chaîne à l'autre que tu vas entendre. Et puis, je pense qu'il y a aussi une partie des gens qui sont italiens qui regardent, qui trouvent toujours le moyen de regarder ça avec les chaînes italiennes, Sky et désormais DAZN Italie, toujours le moyen de le faire. Donc, c'est toujours un petit peu particulier. Mais voilà, suivi, c'est vraiment suivi. Je pense que, ouais, après, c'est difficile de faire une hiérarchie parce que la Liga, il y a toujours forcément le Real et le Barça qui attirent beaucoup.
Par rapport à la Ligue 1, par exemple, parce que comme vous êtes frontalier, la Belgique avec la France, est-ce que la Ligue 1 intéresse plus ou pas, par exemple ?
Non, je ne pense pas, par contre. Je ne pense pas. Il y a pas une... Allez, je veux dire, pour nous, je veux dire, Lens ou Lille ne sont pas particulièrement plus suivis. Évidemment, le PSG, surtout les plus jeunes générations, c'est assez suivi. Marseille, il y a quand même une petite communauté de supporters de Marseille chez nous en Belgique, en tout cas en Belgique francophone, parce que la Ligue 1 n'est pas du tout suivie en Flandre, où là c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt aussi l'Eredivisie qui est suivie plus qu'en Wallonie, c'est l'effet inverse. Mais je pense que la Serie A reste au-dessus en terme d'intérêt, bien sûr. Ça doit être équivalent à la Liga et aussi la Bundesliga, parce que ben voilà, il y a aussi le Bayern Dortmund qui attire du monde. Donc voilà. Non, je pense que la Ligue 1 est derrière la Serie A en termes d'attractivité en Belgique, je pense.
Raphaël, Antoine, est-ce que vous avez une petite question à poser à Anthony ?
Bah, peut-être une question sur un ex-Milanista, sur Charles Decathlair. Est-ce qu'il est un peu suivi en Belgique ? Pas forcément, je ne te demande pas forcément un avis sur son niveau, parce que ça je pense qu'on a tous une idée sur ce qu'il fait cette saison, ce qu'il a fait la saison dernière. Mais est-ce que la Belgique s'intéresse à lui en Serie A, sachant qu'il joue dans deux clubs différents sur les deux dernières saisons ? Est-ce qu'il va, enfin, je pense que oui, mais est-ce qu'il va jouer l'Euro et si oui, à quel poste ? Parce que on a vu qu'à Milan, il a joué à des postes différents, à l'Atalanta encore un différent. Et en Belgique, je crois qu'il a un rôle vraiment très, très offensif là-bas qu'il n'avait pas à Milan, par exemple.
Ouais, on a beaucoup suivi. Hein. Ça avait été un transfert. On a envie de dire, on a un peu le rêve de voir Charles de Ketelaere, une sorte de successeur, même si c'est différent à Kevin De Bruyne, bien entendu, parce que on l'a vu monter en puissance à Bruges, dans son cocon, entre guillemets, puisqu'il a fait toutes ses classes là-bas et sa dernière saison avant de partir à Milan avait été clairement sa meilleure saison ici en Belgique. Donc, on avait beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes. On était dans une hype vraiment au niveau belge parce qu'il y avait lui, il y avait Salemakers, Vranks qui était là-bas et Origi aussi, vous l'avez déjà oublié. Donc, il était vraiment dans cette mouvance-là. On a, par exemple, nous, chez Eleven, on diffuse pratiquement tous les matchs de l'Atalanta. Depuis qu'il y est. Bon, déjà, ceux d'avant, les saisons précédentes étaient souvent diffusés parce que ça reste une équipe phare aussi. On a beaucoup apprécié sa bonne forme du début d'année 2024. Voilà, maintenant, par rapport à son rôle en Belgique et par rapport aux attentes, oui, on attend qu'il devienne l'une des futures stars, évidemment, puisqu'on est toujours dans cette transition entre notre fameuse génération dorée et la nouvelle génération. Il y a beaucoup de joueurs intéressants et on attend de voir qui seront les stars de cette génération-là et qui remplaceront les Hazard, Lukaku, De Bruyne et compagnie. Et par rapport à son rôle, Domenico Tedesco a l'habitude de jouer plutôt dans une sorte de ce qui s'apparente à une 4-4-2, à un 4-4-2 sur le papier. Et il est vraiment en soutien de l'attaquant dans ce registre-là qui est assez souvent Lukaku. Maintenant, moi j'ai envie de voir, on a quand même fait les qualifications, c'était sans Kevin De Bruyne pour la plupart du temps les derniers mois des Diables Rouges, donc je pense qu'il sera plus dans une rôle en sortie de banque en tant que titulaire, à moins que Tedesco n'installe vraiment dans, dans le double pivot au milieu de terrain de Bruyne et que De Ketelaere soit aussi là en soutien de l'attaquant qui sera, sauf blessure évidemment, Romelu Lukaku. Donc voilà, il a ce rôle sur les flancs aussi, même s'il y a du Thorgan Hazard, il y a Carrasco également qui sont encore là, enfin j'ai Thorgan Hazard, mais non, puisqu'il n'est plus repris, c'est plutôt des mecs comme Keba Kyo et Doku qui occupent les places sur les flancs, des Bakayoko. Donc vraiment un rôle axial en soutien de l'attaquant, mais a priori ce sera pas. Je serais étonné de le voir comme titulaire à l'Euro.
Antoine, une question pour Anthony ?
Oui, un autre joueur qui est arrivé récemment, qui joue peu en Serie A, c'est Buchanan. Est-ce que tu penses qu'il va réussir, après qu'il ait fait le mois de préparation avec Inzaghi, qu'il va un peu plus s'acclimater à la Serie A ? Est-ce que tu penses qu'il a beaucoup de potentiel et qu'à terme, il pourrait remplacer à droite Dumfries ou Darmian, même si Darmian est un peu plus âgé ? Est-ce que tu penses qu'il a le potentiel pour devenir un bon joueur de Serie A ?
Vous n'attendez pas vraiment ce joueur-là à l'Inter à ce moment-ci. Il y avait une bonne petite hype quand il est arrivé de New England du côté de Bruges, qui est en plus dans une période où Bruges archi-dominait le football belge, un petit peu plus compliqué sur cette saison-ci et la saison précédente. Au moment où il arrivait, malheureusement pour lui. C'est un joueur qui a quand même déjà 25 ans. J'ai du mal à le voir vraiment remplacer Dumfries. Pour moi, c'est un cran en dessous. Ça peut être une bonne solution ou quoi que ce soit. Je n'ai pas l'impression qu'il va rester très longtemps à l'Inter. Je peux évidemment me tromper, mais je veux dire, puisqu'on peut faire la comparaison, même si le poste est différent par rapport au fait qu'il venait du même club, mais un De Ketelaere, tant je pouvais m'imaginer un monde dans lequel il réussissait à Milan, tant Buchanan, honnêtement, je ne m'attendais pas. Je m'attendais à ce qu'il aille à un moment donné dans un plus gros championnat, ça c'est sûr, mais tout de suite, un club comme l'Inter, j'ai l'impression que c'est un pas trop haut pour lui. Après voilà, on a vu que Inzaghi était quand même capable parfois aussi de faire progresser énormément des joueurs, donc il est quand même dans le bon environnement pour progresser et ne faire mentir, ça c'est une certitude. Et si on veut terminer sur l'Italie, évidemment par rapport à l'aspect belge, et un fait sûr et certain, c'est que la nationale ici est très suivie pendant l'Euro, pendant les Coupes du Monde quand elle la joue évidemment, et l'engouement qu'il y a vraiment autour est incroyable. Bah, moi évidemment je viens de région où la communauté italienne est très très forte. Et que ce soit l'Italie ou la Belgique, quand il s'agit d'aller klaxonner, quand l'un ou l'autre gagne, il n'y a pas beaucoup moins de monde quand c'est l'Italie qui gagne dans les rues que quand c'est la Belgique. D'ailleurs, ouais, certains étaient contents de voir qu'on n'était pas à la Coupe du Monde à la base, parce qu'ils disaient qu'ils allaient pouvoir dormir un peu plus tranquillement. Et finalement, on finit par se dire, bah, en fait, ça nous manque un petit peu les Coupes du Monde sans l'Italie. Donc voilà, ça aussi, c'est un élément important, parce que là, pour le coup, tout le monde regarde, qu'on aime le foot ou pas, les matchs de la nationale, qui est clairement la sélection la plus suivie après l'Italie ici.
On peut changer le conducteur, on va faire une transition nationale, puisque l'équipe d'Italie, donc, a son dernier rassemblement avant l'Euro, avec deux matchs aux États-Unis contre le Venezuela et l'Équateur, donc deux rencontres respectivement les 21 et 24 mars. Alors, trois nouveaux dans la liste, Luca en attaque, Belanova en piston droit et Folorunchu en milieu de terrain. Pour Belanova, ça se sentait un petit peu arrivé parce qu'il fait de grosses performances. Alors les deux autres aussi sont plutôt pas mal, mais bon, c'est quand même deux surprises un peu plus importantes. Anthony, toi, sur ces joueurs-là, des trois justement, est-ce qu'il y en a un que tu penses qu'il pourrait aller à l'Euro et auquel tu attends particulièrement de le voir lors de ces deux matchs amicaux aux États-Unis?
J'ai presque envie de dire Folorunchu, puisque c'est un signal fort quand même, je trouve, envoyé par Spalletti de prendre Folorunchu à la place, par exemple, d'un Cristante, parce que sauf si j'ai loupé une énorme info, Cristante, il n'y a pas de problème de blessure grave ou particulier. Et c'est pas en mars que tu dis bon, tu vas laisser un mec au repos pour tester de nouvelles choses, pas à 3 mois d'une compétition. Donc c'est celui que j'ai plus envie de voir, parce que lui il est quand même dans une forme très particulière, très bonne avec le Hellas Vérone, alors qu'on pensait que toute l'équipe allait s'écrouler. C'est quand même la belle histoire. Moi c'est vraiment celui que j'attends le plus, celui que je comprends le moins c'est clairement Lorenzo Lucca, par rapport au fait qu'il se passe dans Scamacca par rapport à Lorenzo Lucca. Ça, j'ai un peu du mal à comprendre. À mon avis, ça ne doit pas bien se passer entre Spalletti et Scamacca. Je ne vois que cette raison-là, parce que Lucca n'est pas non plus en train de cartonner totalement du côté de l'Udinese. Mais bon, on ne va pas non plus refaire le débat sur le 9 en Italie. Folorunchu, clairement, c'est un profil assez différent, assez intéressant aussi dans ce milieu de terrain. Et j'espère surtout savoir l'équipe qui va jouer en 3-4-2-1 désormais pour Spalletti, comme la Gazzetta semblait l'annoncer. Je trouve que l'Italie est mieux armée pour ça, même si c'est une grosse différence par rapport à ce qu'on a vu de Spalletti en club.
avec pas mal les principaux clubs effectivement qui jouent une défense à trois, que ce soit l'Inter, la Juve, la Roma avant, et qui de temps en temps la retrouve encore, l'Atalanta. Enfin, c'est vrai que voilà, c'est un schéma assez répandu. Antoine, je sais que toi, tu aimes bien Bellanova, par exemple, formé à l'AC Milan, qui a fait une saison également en prêt à l'Inter la saison passée, où il a eu du mal au début avant de quand même finir pas trop mal, notamment entrer en finale de Ligue des Champions. Moi, je l'ai connu à Bordeaux également, il y a quoi, il y a 4 ans maintenant, où je ne l'imaginais pas forcément arriver en national, pour être franc à l'époque, parce qu'il avait quand même des gros soucis, notamment défensifs. Voilà, c'est l'un des joueurs qui performe pas mal. Et comme le disait Anthony, dans le schéma qui devrait s'installer pour l'Italie, ça peut être un vrai atout dans un groupe, non?
Clairement, je pense que les profils changent et certains joueurs ne rentreront plus dans la sélection. D'ailleurs, c'est le dernier rassemblement avant l'Euro. Donc, je pense qu'on a à peu près 90% du socle à part blessure ou évidemment un joueur extrêmement en forme. Je pense que pour rebondir sur ce que disait Anthony, je pense que Luca est pris parce qu'il a envie de le tester peut-être avant l'Euro. Vu que Scamac a plus qu'un problème avec lui perso, je pense que c'est parce que physiquement, il est toujours pas au top. Et il a du mal à revenir, donc je pense que Spalletti essaie aussi un peu d'appuyer sur des profils qu'il n'a pas encore essayé pour voir s'ils peuvent rentrer derrière si les titulaires sont blessés. Pour Belhanda, j'ai envie de dire qu'on savait qu'il avait beaucoup de potentiel, et finalement, son poste préférentiel, c'est Piston. L'an dernier, je pense qu'il fait une saison biaisée et mauvaise parce qu'il supportait pas comme Correa la pression de l'Inter. En plus, l'Inter, contrairement à cette année où, à part depuis mercredi, c'est un peu plus compliqué, où tout était beau et joli cette année. L'an dernier, c'était un contexte un peu difficile, donc il jouait même plus à la fin. Mais c'est pas surprenant, et de toute façon, on se dirige vers une défense à 3, parce que bah, il a raison, Spalletti. Il y a beaucoup d'équipes qui ont joué ou qui jouent avec ce dispositif, et du coup, ça ouvre des profils comme Belhanda, comme. Destiny Udoji qui joue aussi avec Tottenham parfois en piston, ça peut arriver aussi, pas toujours en défense à 4. Et ça donne déjà, je pense, un beau dessin de sa sélection avec ses joueurs qui arrivent. Et je pense que Benoît, s'il continue, de toute façon, il sera. Derrière Di Lorenzo, je pense que ce sera lui qui sera. Ça va peut-être se jouer, pas s'il prendra 4 ou 5 pistons, ça va sûrement se jouer entre Udoji et Cambiaso pour la dernière place à gauche. Mais je pense que Belhanova et Di Lorenzo sont déjà assurés sur le côté droit.
Et Cambiaso, qui est tellement polyvalent qu'il a terminé le match milieu de terrain, transition tout trouvé. On va... Alors, je vous demande rapidement, messieurs, puisqu'on a, comme à chaque fois, dépassé au niveau du chronomètre. Bah, on va commencer par la Juve, même si elle n'est plus deuxième, puisqu'on parlait de Cambiaso, qui a donc terminé milieu de terrain, après avoir commencé piston droit. Nouveau match nul pour la Juve, cette fois-ci 0-0, après avoir pris, durant 3 matchs de suite, 2 buts. Cette fois-ci, un clean sheet pour la Juve, mais peu offensivement, même s'il y a quand même eu 2 poteaux, il faut quand même le signaler pour la Juve pendant la rencontre. Mais donc, 7 points pris en 8 matchs. La Juve, qui est 17e sur la période, il n'y a que Sassuolo, Salernitana et Frosinone qui ont fait pire que la Juve sur les 8 dernières journées. Une telle série négative, ça n'était pas arrivé depuis 2010-2011. À l'époque, c'était Del Neri, l'entraîneur de la Juve. Donc, ça remonte quand même pas mal. Et un match aussi terni, par exemple, par un carton rouge pour Vlahovic. Allegri, qui en fin de match pète un petit peu les plombs aussi, auprès des micros de Sky, qui lui posait des questions un petit peu insistantes sur le fait qu'il n'utilise pas d'entrée le trident offensif, ils disent, Chiesa, Vlahovic. Et lui a répondu au journaliste bah, qu'en gros, lui, savait entraîner, et il ne savait pas faire le journaliste, et que donc, bah, voilà, chacun a sa place. Anthony, toi, sur la Juve, qui était candidat pour le Scudetto, il y a quoi? Il y a 1 mois et demi à peu près, et qui, depuis ce carton rouge pris par Milik contre Empoli, on a l'impression que tout s'est un petit peu cassé. Il y a eu la défaite 1-0 contre l'Inter en suivant, et puis voilà, depuis, l'équipe est complètement à l'arrêt. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es même un petit peu inquiet pour une place en Ligue des Champions, puisqu'on se moquait d'Allegri lorsqu'il disait, il y a 2 mois, nous, l'objectif, c'est pas le titre, c'est une place en Ligue des Champions, mais ça commence à devenir réalité.
Oui, inquiet, pas encore. Il faudrait que cette série se prolonge. J'ai du mal à l'imaginer encore se prolonger 1 mois, même si, enfin, après, cette série ne fait que prouver et qu'elle est dans le sens que la Juve doit, à un moment donné, prendre une décision concernant Allegri. Alors, pas pendant cette saison. Mais bon, enfin, voilà, au bout de 3 saisons, on n'a toujours pas vu c'était quoi son projet de jeu. Il veut jamais parler de jeu non plus et ça l'énerve très vite, hein, comme tu le disais très bien hier encore, son comportement en après-match. Ça devient insupportable en fait, même en n'étant pas supporter de la Juve, ça devient en fait très agaçant, c'est toujours la même histoire, limite quand tu regardes pas les matchs, tu regardes juste le score et tu vois que c'est 0-0, que c'est 1-1 et tu te dis bon ben il faudra revenir dans le temps additionnel parce que c'est ce moment-là qu'un, j'en sais rien, un Bremer, un Rugani, un Danilo va mettre un but qui sort de nulle part et les sauver. Et ça n'est arrivé qu'une fois face à Frosinone et d'ailleurs c'était Rugani je pense à la 95e. Non, attention, c'est vrai que il y a la manière aussi hein, pour aller chercher cette place européenne. Ils devaient rester en course pour le Scudetto hein, pendant longtemps. Je ne les voyais pas aller le chercher pour autant. Mais Voilà, il est grand temps que cette équipe reprenne un projet sportif cohérent avec les bonnes personnes aux bons endroits, que ce soit sur le banc et sur le terrain, parce qu'il va falloir aussi se poser des questions pour certains joueurs et peut-être prendre des décisions courageuses par rapport à des joueurs comme, ben, j'ai envie de dire, Vlahovic ou Chiesa, hein. L'apport n'est quand même pas suffisant pour ces deux joueurs-là. Ils ont des circonstances atténuantes, mais pas que. C'est quand même une période qui commence à devenir très longue à eux maintenant de trouver le bon entraîneur. Je pense qu'ils ont trouvé le bon directeur sportif. Et il va falloir que tout le reste se mette en place pour la Juve. Mais bon, normalement, top 4. Hein, ce serait une catastrophe si. Enfin, top 4, peut-être même top 5. Hein, mais a priori, ils n'auront pas besoin de la cinquième place pour la Ligue des Champions.
59 points pour la Juve et Bologne 54 points et la Roma 51 pour l'instant, car c'est l'AC Milan qui est seul deuxième. Nouveau succès pour les Rossoneri, Raphaël. Donc 62 points, c'est un point de moins que l'année du Scudetto à la même époque et c'est 10 points de plus que la saison passée. Donc ça remet un petit peu aussi en perspective. Succès 3-1 contre l'Hellas Vérone qui était plutôt en forme ces dernières semaines. Théo Pulisic qui ont marqué. Noslin qui avait réduit l'écart. Et puis Chukwueze qui a assuré le succès 3-1 pour l'AC Milan. Qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre, Raphaël?
J'ai retenu déjà les 3 points qui étaient primordiaux suite au match nul de la Juve et qui s'est passé quelques heures avant le match du Milan. Et ça, mais on ne le savait pas encore. C'était une victoire importante à prendre en vue du gros match Inter-Napoli, parce que Milan a du coup repris 2 points pour l'Inter, même si Milan ne joue pas le titre parce que c'est fini. C'est quand même bien de se rapprocher pour avoir quand même quelque chose à jouer en plus de la Ligue Europa en championnat. Ce que j'ai retenu, c'est, on l'a déjà dit dans le podcast, mais je le redis et je le souligne, l'apport des joueurs autres que Giroud et Léao, qui étaient les deux joueurs majeurs qui marquaient ces dernières années. Là, on a quand même encore des joueurs qui peuvent prendre le relais à l'image d'Okafor et Pulisic. Donc, Okafor a pas marqué, mais il a été, je trouve, assez bon dans ce rôle de neuf qui prend la profondeur. C'est un rôle qui change de Giroud. Et je pense que ça peut être très intéressant de le voir à nouveau dans ce positionnement-là. Pulisic est encore très bon. Pulisic, il est à 12 buts, 8 passes décisives avant même la fin du championnat. Donc, je parle de toute compétition confondue, mais il lui reste encore, allez, je pense, une dizaine de matchs à jouer en comptant la Ligue Europa. Donc, il faut augmenter encore ces statistiques-là. Il fait une très, très bonne saison. Je pense qu'assurément, il sera dans le top 3 des joueurs à souligner à Milan cette saison. Et j'aimerais encore parler de Théo Hernandez, qui, certes, a eu un petit trou d'air au mois de décembre, mais un joueur dont on banalise les performances, et pas seulement les stats, mais les performances. Hier, pour ceux qui ont regardé le match, et c'est le cas tout le temps, il a une activité défensive et offensive qui est impressionnante. On oublie même qu'il est défenseur latéral gauche, tellement il se projette, tellement, et il le fait à bon escient. C'est pas un joueur qui va se projeter, puis qui veut marquer son but. Hier, il le met tout seul, son but. Il va sur son côté gauche, il a des contre-favorables parce qu'il se bat, il en a encore un parce qu'il se bat, et il finit tout seul par marquer. C'est quand même assez impressionnant son niveau. Il est à 5 buts et 10 passes pour un latéral gauche, c'est exceptionnel. Donc je dirais, et j'avais effectivement noté les mêmes stats que toi sur le nombre de points obtenus, un point de moins obtenu que l'année du titre. Donc en fait, ça dit tout. En fait, ça dit que le Milan a un parcours de champion dans une saison normale, mais que la saison est anormale puisque l'Inter vole. Et du coup, le Milan mérite sa deuxième place. Je vois vraiment aucune équipe plus régulière que Milan cette année, bien sûr, je parle hors Inter. Donc les équipes hors Inter, il n'y a personne qui est aussi régulier que Milan, il n'y a personne qui prend autant de points que Milan. Donc le Milan est à sa place et fait une bonne saison.
Pellegrini accende la luce, converge, prova il destro, Pellegrini! Pellegrini! Una delle sue giocate preferite! Converge, punta, tira e segna Lorenzo Pellegrini, che con DDR è diventato ormai Lorenzo il Magnifico. 1-0 per la Roma.
On va passer à la Roma, qui est l'équipe en forme avec toi, Antoine. Succès étriqué pour la Roma, 1-0, but du capitaine Lorenzo Pellegrini. Alors pourquoi Pellegrini? Parce que optique nationale, Antoine, c'est intéressant de l'imaginer au milieu, que ce soit dans le milieu à 2, à 3 ou derrière l'attaquant, on verra. Mais Pellegrini, c'est depuis l'arrivée de Rossi, le 20 janvier, 5 buts en Serie A et en championnat. Parmi les 5 grands championnats européens, il y a seul Foden parmi les milieux ou milieux offensifs qui ont marqué plus de buts, 6. Pour Foden, et Foden est quand même un milieu très très offensif, plus que Pellegrini qui joue actuellement dans le milieu à 3 de la Roma. Donc 5 buts pour lui depuis le 20 janvier, même 6 si on inclut la Ligue Europa. Donc voilà, il est clairement devenu l'atout numéro 1 de la Roma, sachant que ça s'était très mal terminé entre lui et Mourinho. Mourinho qui lui avait laissé la fameuse bague du titre dans le vestiaire en disant vous me la rendrez lorsque vous serez devenus des hommes. Et voilà, ça fait partie du show Mourinho dont on a l'habitude. Mais Pellegrini, c'est bien de le voir enchaîner de nouveau et de le voir retrouver un tel niveau.
Quand c'est un joueur qui est laissé tranquille par les blessures, c'est un des meilleurs joueurs italiens qu'on ait. Je pense qu'il est très sous-coté par le fait qu'il joue malheureusement dans une Roma qui n'a pas retrouvé la Ligue des Champions depuis déjà 3 ans. Mais au niveau de la qualité de jeu, de la vision de jeu et même de son âge, il n'a que 27 ans, donc il peut encore progresser. Je pense que c'est un des meilleurs, vraiment un des meilleurs joueurs italiens. Il a un rôle un peu hybride où il peut très bien se balader sur un milieu de terrain comme sur une ligne offensive. Il a même joué des matchs un peu hein, dans un rôle un peu d'ailier gauche, un peu faux ailier gauche à rentrer. C'est assurément une arme en plus pour l'Euro, sachant qu'en plus il a manqué pour blessure un match le dernier Euro. Et qu'on n'a pas été qualifié pour la Coupe du Monde, de toute façon il n'a pas joué non plus. Mais je pense que c'est un joueur qui est très important et il a une relation très particulière avec Delors. Et en plus, il est capitaine de la Roma. Donc, je pense que là, il revient. Et je me pose des questions aussi sur son début de saison, en me disant si parfois, il n'y avait pas un peu hein, aussi parfois des blessures un peu diplomatiques, comme pour Smalling ou d'autres joueurs qui, miraculeusement, dès que Mourinho est parti, se sont mis à rejouer, à retrouver des sensations. Donc, c'est assurément un point positif pour la Roma déjà, parce que je pense que moi-même le premier, je l'ai dit dans un podcast il y a 3 mois, sous Mourinho, je disais qu'ils n'arriveraient même pas en Ligue Europa, et on a depuis retrouvé des Rossi, et à part la défaite contre l'Inter et le match nul qu'ils ont fait en rattrapant les buts, bah, ils se rapprochent, sur les 5 places, ils se rapprochent de la Ligue des Champions. Donc c'est un bienfait pour la sélection d'avoir Pellegrini qui justement peut-être pourra jouer. Faire le lien entre l'attaque et le milieu de terrain, si on joue avec 3 milieux de terrain et des pistons à l'euro. Et pour la Roma dans le rush final, parce que je rappelle qu'en plus, ils ont toujours la Ligue Europa où d'abord ils rencontrent le Milan et le championnat où ils ont leur destin entre leurs mains, quoi.
Exactement, puisque la Roma est cinquième et donc dans la probabilité assez haute que l'Italie ait 5 places pour le prochain des champions, donc la Roma pour le moment est dans les clous. Bien sûr, on n'a pas parlé d'Atalanta-Fiorentina puisque le match était reporté 1 heure avant le coup d'envoi, puisque le directeur sportif de la Fiorentina, Joe Barone, a fait un malaise. Ça semble être un infarctus. Il a été évacué en hélicoptère tout de suite de Bergame à Milan, à l'hôpital San Raffaele pour passer des examens depuis. Il est suivi là-bas. Grosse inquiétude pour Joe Barone. Donc là, nous, on enregistre ce lundi matin. Donc, bien sûr, c'est pas ce qu'il va se passer, mais on lui souhaite bien sûr un prompt rétablissement et surtout qu'il s'en sorte. Le match a assez logiquement été reporté, du coup, puisque ben, voilà, ça s'est passé à l'hôtel de la Fiorentina. Donc, vous imaginez bien forcément que les joueurs et le staff étaient chamboulés. Le match sera reporté. Si, comme les deux équipes sont encore en lice, aussi bien en Coupe d'Europe qu'en Coupe d'Italie. Si jamais les deux équipes vont au bout du bout en Coupe d'Europe, le match pourrait même se jouer après la fin du championnat parce qu'il n'y a aucune date de disponible. Mais bon, ça c'est accessoire pour le moment. On n'a pas parlé également d'Empoli-Bologne pour vous signaler que Bologne s'est imposé 1-0, cinquième but de la saison de Fabian en sortie de banc. Il a signé un joli but et donc un nouveau succès de Bologne qui conforte sa 4e place. Et puis on n'a pas parlé également de Salernitana-Lecce, succès 1-0 de Lecce. Guiombert contre son camp a marqué et donc du côté de la Salernitana, Olivier Anis est déjà terminé. Ça pourrait être le retour de Pippo Inzaghi sur le banc. C'est un vrai cirque, la saison de la Salernitana. Et Sabatini, le directeur sportif, pourrait déjà aussi partir. Voilà. On fait les pronostics ou pas?
Mais non, nounouille.
C'était un jingle qui vous est offert par Nicolas Wagner. On en profite pour le saluer, notre Nicolas, puisqu'il n'est pas avec nous. Il est lundi de repos. Enfin, il travaille en vrai, car ça lui arrive. Tout arrive, mais voilà, on le retrouvera dès le prochain numéro. Nous, on va donc se quitter. Antoine, je voulais en profiter en cette fin d'épisode pour faire un coucou à Manu, tu es d'accord? Parce que c'est notre ami
Oui.
marathonien qui était à Rome ce week-end et sous le soleil romain, qui, malgré des problèmes physiques depuis quelque temps, a terminé en dessous de 3h30 le marathon. Donc, ceci en étant blessé quasiment dès le début du marathon, c'était pour lui faire un vrai chapeau.
Chapeau!
C'est un guerrier, c'est un méanista. Je sais pas si un interiste aurait fait ça. Il serait sûrement roulé par terre, l'interiste.
Il a fait d'ailleurs le marathon avec le maillot du Milan. On salue Manu et on l'invitera très prochainement puisque en plus de courir et de très très bien travailler, il est aussi.
Ouais, c'est pas, on sait savoir très bien travailler. Ça, je ne laisserai pas dire ça non plus. Il travaille.
En tout cas, on embrasse Anthony Coppi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle le journaliste belge qui commente pour Eleven Dazen, la Serie A, entre autres, donc en Belgique.
Oui, bah, merci. C'était vraiment un plaisir et tout. Donc voilà, si c'est à refaire, c'est sans problème pour moi.
Bah avec grand plaisir, c'est très intéressant.
En plus, juste pour dire, de ce que j'ai compris, apparemment, là, on est 3000 années pour un interiste. Donc, c'est le seul derby qu'on va gagner cette année. Ça fait longtemps, ça fait plaisir, on se rattache à tout ce qu'on veut, donc tout ce qu'on peut surtout, tout ce qu'on peut surtout. Là, c'est pitié, là je sors de mon rôle de journaliste, mais pitié, pas de titre dans le derby. Franchement, ce serait la totale. Non, pitié, non quoi. Perdez avant. Je préfère qu'on perde le derby et que vous soyez pas champion que de le. Enfin, tu vois, quitte à ce que ce soit comme ça, je veux bien le perdre. Quitte à ce que vous soyez pas champion et que vous perdez d'autres matchs avant. C'est
non. Que ce soit pas fêté, que ce soit pas fêté le 21 avril.
Non. J'ai rangé depuis septembre dernier mon t-shirt Milano et Rossonera que j'avais acheté le matin du derby aller en demi-finale de l'Euro Derby et je ne le porte plus depuis septembre. C'est plus possible. Il faut rester logique, quoi. C'est plus possible.
Pour le brûler, il n'y a que ça à faire.
Non, quand même pas.
D'ailleurs, tu commenteras le match ou pas, ou tu sais pas encore, ou tu seras malade pour.
Je sais pas encore. J'avais commenté le match aller. C'était la première fois que je faisais le derby. En plus, avec Mario Ilorato, un de consultants qui était. Qui était préparateur physique à l'époque de Montella à Milan. Donc, je veux dire, bon, nous, on avait envie que ça aille plutôt dans l'autre sens. Mais ouais, non, les gros matchs de Milan, je sais pas, quand je fais mes premières avec Milan, c'est le premier Milan-Yo, c'est une défaite. Le premier match tout court de Milan, c'était ce fameux match face à Benevento avec le but de Brignoli à la fin. Donc, mes premières à Milan, c'est jamais bon. Donc, il faut plus que je les commente, en fait.
Commente l'Inter, c'est mieux.
Ouais, mais ça n'a pas fonctionné beaucoup plus. Regarde, Inter Milan, je l'ai commenté, ils ont gagné 5-1, tu vois. Donc, donc c'est délicat, c'est délicat.
Tiens-nous au courant, j'espère que tu commenteras le match. Du coup, moi, ça me rendrait personnellement.
Mais, ça va, je te dirai quoi.
C'est à peu près le dernier objectif de la saison, mais bon. Bref, oui. En tout cas, merci de souligner mon courage, parce qu'effectivement, ça fait plusieurs semaines que je suis en infériorité numérique avec à chaque fois 2-3 Milanisti autour de moi, donc c'est pas forcément évident, mais bon. J'ai de la chance, parce que aussi bien Antoine Aiello que Raphaël Gauthier sont des Milanisti, mais qui sont gentils. Mercredi soir, moyen, pour être franc, mais bon, pour le reste, ils sont très sympas. Merci.
Je vais avouer, mercredi soir, j'étais quand même déçu.
Déçu?
Bon, il y a aussi l'amour du foot italien, des fois, et je pense que quand tu es journaliste et que tu es obligé d'avoir des vues un peu plus objectives, tu changes parfois un peu ton point de vue. Je t'ai dit, enfin, ça fait chier de ne pas encore voir un club italien en quart de finale de Ligue des Champions. Et pour l'instant, ouais, je préférais que ce soit Milan, hein, pas se mentir. Mais voilà.
D'ailleurs, c'est vrai, est-ce que le ballon d'Ottawa, il est retombé ou pas encore?
Sur ma terrasse. Oui, il a fait Madrid-Milan. Heureusement, il n'a pas cassé de vitre. J'ai de la chance.
Il a rejoint celui de Simone Zaza. On ne sait où, mais il l'a rejoint.
C'est ça, dans l'au-delà. Antoine Aiello, Raphaël Gauthier, merci, messieurs, d'avoir été avec nous aussi ce lundi matin.
Ciao.
Ciao.
Et donc, eh bien, le générique du jour, et on se quitte, comme on a commencé avec Cervo a Primavera de Riccardo Cocciante. Richard Cocciante, vous connaissez. Bien sûr, aussi en France, l'artiste, le chanteur italo-français, connu notamment pour Notre Dame de Paris, qui a une très belle et très longue carrière également en Italie. Et comme eh bien, on est aux portes du printemps, la primavera. Voilà, je souhaitais vous proposer cette très très belle chanson spéciale aussi. Pour moi, pour tourner une page et trouver un nouveau printemps, c'est important aussi d'écouter des belles paroles qui peuvent lier au passé pour renaître. Nous, on se retrouve prochainement, au moins le 2 avril pour la série. Il y aura peut-être des petites surprises pendant la trêve, on verra. En tout cas, restez connectés à Pronto Calcio et on se dit à très vite. Ciao, ciao.